proposons le journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On poursuit aujourd'hui notre série sur les à côté des Jeux Olympiques, les retombées, les transformations pour les villes hôtes. À Paris, le début de la compétition approche à grands pas désormais. On est officiellement à J-100, la flamme olympique a été allumée hier. Mais que reste-t-il une fois la torche qu'elle a bien refroidie plusieurs années après les Jeux? Nous allons pour cela à Londres. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant de France Culture en Angleterre, les JO de Londres, c'était il y a 12 ans maintenant. Pour l'occasion, la plupart des sites de compétition avaient été construits dans l'est de la capitale, dans le quartier de Stratford, qui a aujourd'hui complètement changé de visage.
Oui, totalement transformé. Et encore aujourd'hui, il y a des grues et des ouvriers partout. Les chantiers continuent. Il y a évidemment le stade, la piscine et plein d'autres installations sportives. On y reviendra. Mais le projet va bien au-delà. D'ailleurs, le maire de Londres, quand il obtient l'organisation des Jeux en 2005, précise que ce ne sont pas les 2 semaines de sport qui l'intéressent, mais tout ce qui les accompagne en termes d'investissement et d'urbanisation. À l'époque, le quartier de Stratford, à l'est de la ville, ne vaut pas grand-chose. Là où se dresse désormais le parc olympique, se trouvait une friche industrielle traversée par une voie ferrée. Aujourd'hui, c'est un quartier qui grouille de monde. Avec des immeubles d'habitation, des bureaux, depuis peu un centre culturel qui accueillera cette année une salle de danse. L'année prochaine, une partie de la BBC investira les lieux, ainsi qu'une antenne du Victoria and Albert Museum. C'est ici qu'aura lieu, par exemple, la plus grande exposition jamais consacré à David Bowie. Il se passe énormément de choses sur ces 226 hectares, le principal pôle d'attraction étant l'immense centre commercial, inauguré un an avant les Jeux Olympiques, 280 magasins et 70 restaurants. À terme, 8000 étudiants viendront en cours, ici aussi. Plusieurs universités sont déjà installées, d'autres attendent la livraison des bâtiments. Londres voulait faire vivre Stratford grâce aux Jeux Olympiques et de ce point de vue-là, c'est une réussite.
Mais tout n'a pas exactement fonctionné comme prévu. Il y a aussi, Richard, des perdants dans cette histoire.
Absolument. Ce que l'on ne peut pas rater, c'est évidemment le stade olympique, là où s'est déroulée l'inoubliable cérémonie d'ouverture, là où la reine et James Bond ont sauté en parachute. Eh bien, ce stade sert aujourd'hui au club de foot de West Ham. C'est ici qu'il joue ses matchs à domicile. Mais pour qu'il accepte de louer l'enceinte, il a fallu faire de gros travaux d'adaptation, 400 millions d'euros financés par le contribuable. Et quand il n'y a pas de match de foot, il ne s'y passe pas grand-chose, il n'est pas rentable, dur de s'imposer pour accueillir des concerts ou de grands spectacles dans une ville qui dispose déjà de plein d'autres stades. Le vélodrome olympique et le centre de tennis peinent à trouver un usage et ne sont pas rentabilisés non plus. Tous les sites et les projets dépendent de la mairie et pour l'heure, elle perd de l'argent, 35 millions d'euros par an. Des centaines de logements ont été construits dans le secteur, l'offre s'est nettement accrue et le quartier est devenu attirant. Mais les loyers ont explosé. Les gens qui habitaient dans le secteur il y a 15 ans ont dû le quitter. Trop cher désormais, même si une proportion de ces nouveaux appartements est censée rester à des prix accessibles. Cette notion floue est liée au marché immobilier de l'une des villes les plus chères au monde.
Richard Place, ce décryptage et tous les autres sont à retrouver sur le site internet de France Culture, à la page dédiée, le journal de l'écho. Alors qu'en France, le gouvernement coupe dans les dépenses publiques pour tenter de juguler un déficit qui dérape, le Canada s'apprête lui à taxer davantage les plus riches pour financer de nouvelles politiques. Le Premier ministre Justin Trudeau espère récolter 20 milliards de dollars canadiens d'ici 5 ans, des recettes réinvesties dans l'éducation, les aides à la construction de près de 4 millions de logements ou encore le remboursement des contraceptifs, des mesures destinées surtout aux jeunes, notamment à l'approche des prochaines élections fédérales où pour le moment le Premier ministre libéral a 10 points de retard sur son rival conservateur. Retour en France où un accord est en vue sur le compte épargne-temps universel, le CETU, censé permettre aux salariés de mettre de côté des congés tout au long de leur carrière. Hier, une organisation de patrons, l'UDP, et 4 syndicats se sont entendus sur un projet pourtant écarté la semaine dernière avec l'échec des négociations sur l'emploi des seniors. Reste à savoir qui signera la version finale et si le gouvernement s'en saisira ou non. Pour le moment, seuls le MEDEF et la CPME ont rejeté l'idée. La position de la CGT et de la CFE-CGC, le syndicat des cadres, n'est pas encore arrêtée. Les syndicats de Stellantis montent au créneau après l'augmentation de leur patron, Carlos Tavares, dont le nouveau salaire de 36,5 millions d'euros a été approuvé par les actionnaires du groupe automobile hier. Une décision jugée choquante par la CGT et Force ouvrière. Les deux organisations opposent cette augmentation de 50% aux 3,7% accordés aux salariés. De son côté, Carlos Tavares assume et vante son bilan et la bonne santé du groupe né de la fusion de Peugeot, Citroën, Fiat et Opel. Et puis le verrier français Duralex a demandé hier son placement en redressement judiciaire et la recherche d'un repreneur. Le groupe est en difficulté financière depuis la crise de l'énergie et l'envolée de sa facture de gaz. 230 salariés sont concernés dans l'usine historique de La Chapelle-Saint-Ménin dans le Loiret.